Mon Environnement, c'est votre émission dédiée à la protection de Dame Nature. Mon Environnement reçoit tous les mercredis dès 15h des acteurs qui œuvrent à la protection de la faune et de la flore.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de la voix du parlementaire et bienvenue dans votre émission Mon Environnement. Mon Environnement, comme son nom l'indique, est une émission qui traite tous les sujets relatifs à l'environnement et au développement durable. C'est un espace de débat et d'analyse des enjeux climatiques et environnementaux. Elle vous parvient tous les mercredis de 15h05 à 15h55 et rediffusion à la même heure les vendredis. À la technique, Harry Mathias Collier et Marie-Madeleine Guilavogui. Au micro pour la présentation, Sano Sekou Cheikh et Souleymane Diallo. Vous êtes toujours à l'écoute de la voix du parlementaire et l'émission c'est Mon Environnement. Et dans ces numéros, nous parlons de la responsabilité sociale des entreprises pour la protection de l'environnement. Et pour vous parler de ce thème, nous recevons pour vous Monsieur Mohamed Lamine Keita. Il est directeur de pôle communication institutionnelle et RSE à la direction communication et relations publiques à la société Orange Guinée. Bonsoir Souleymane Diallo.
Bonsoir Sekou Sano. Bonjour Monsieur Keita.
Bonsoir Monsieur Keita.
Bonsoir.
Merci d'être venu dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, vous êtes dans l'émission Mon Environnement de la radio parlementaire, la 107.5 FM. Qu'est-ce que cela vous dit?
Ça fait plaisir de savoir qu'il y a un média à part entière au niveau de du Conseil national de transition et surtout que cette radio, ce média s'intéresse à des questions de fond, à des questions qui nous concernent tous, notamment l'environnement.
Voilà, Monsieur Keita, vous êtes du service de la communication Orange Guinée. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à insérer dans vos actions la responsabilité sociale de l'entreprise pour la protection de l'environnement?
Ok, bon, comme vous le savez, hein, Orange Guinée, c'est une filiale d'un grand groupe international qui travaille avec des standards internationaux, bien que déployé en Guinée dans le cadre de son activité, mais aussi qui fait en sorte de pouvoir respecter la réglementation partout où elle est installée. Et en Guinée, comme vous le savez, il y a plusieurs réglementations dans le domaine, que ce soit le domaine de l'environnement, que ce soit le domaine social avec tout ce qui est lié à l'hygiène, la santé, la sécurité au travail, tout ce qui est lié au télécom d'une manière globale dans le cadre de nos activités. Mais une entreprise comme Orange travaille pour fournir des produits et services à ses clients. Cependant, elle évolue dans un environnement où il y a des hommes et femmes qui attendent beaucoup plus que les produits et services qu'elle offre, étant donné sa renommée, étant donné son impact. Et cela se traduit donc par la volonté de l'entreprise de mettre en application tout ce qui est lié au développement durable dans le cadre de son activité. D'accord. Donc comment réduire son impact dans le cadre de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. D'accord. Et cela se traduit de plusieurs manières. Donc il faut, pour une entreprise en tout cas responsable, tenir compte des préoccupations des différentes parties prenantes et apporter des réponses adéquates aux besoins qui sont exprimés, aux besoins qui sont remontés. Donc ce qui a traduit la volonté d'Orange Guinée de mettre en place un programme d'engagement citoyen qui s'est matérialisé par la création d'une fondation déjà, mais aussi par la mise en place d'un pôle exclusivement dédié à la responsabilité sociale ou sociétale d'entreprise. Voilà un peu ce qui a sous-tendu la présence de cette direction au sein de Orange Guinée.
Et puisqu'on parle de la protection de l'environnement, et ces programmes-là, ils s'étendent sur toute l'année ou bien vous avez une périodicité bien déterminée pour l'exécution de ces programmes de protection de l'environnement?
Il faut savoir que quand on parle de responsabilité sociale d'entreprise, il n'y a pas que l'environnement. Chez nous, nous avons identifié 5 axes prioritaires d'intervention. Le premier axe prioritaire concerne la gouvernance. La gouvernance, tout ce qui est lutte contre la corruption, une entreprise du calibre d'Orange ne doit pas tolérer la corruption. Donc, dans le cadre de ses activités, fait en sorte de lutter contre la corruption et amener ses partenaires à œuvrer dans ce sens. L'autre élément, c'est le bien-être communautaire. Tout ce que nous faisons pour apporter autour de nous du bien-être pour les populations, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la culture, etc. Un troisième élément, c'est la croissance et le développement économique. Comment, à travers notre activité, nous impactons les populations de telle sorte que, aujourd'hui, grâce à la présence d'Orange, on a plus de 150 000 emplois ou encore emplois indirects, bien sûr, sans compter les emplois directs ou même le chiffre d'affaires qui est généré par des entreprises qui travaillent avec Orange. Le quatrième axe qui est très important, c'est celui de la préservation de l'environnement. Donc, c'est un des 5 axes de la politique RSE d'Orange Guinée, la préservation de l'environnement qui est au cœur de notre stratégie et qui se déploie en tout temps. Ce n'est pas forcément lié à un événement particulier, mais c'est vraiment dans le cœur même de l'activité de l'entreprise et vous allez le comprendre tout à l'heure. Le cinquième axe que j'ai envie de citer, c'est comment est-ce que nous accompagnons les collaborateurs en les écoutant, parce que ça aussi c'est de la responsabilité sociale que d'écouter ses collaborateurs, prendre en compte leurs besoins et aussi leur apporter les réponses adéquates à leurs besoins. Donc pour revenir au point concernant l'environnement, ce n'est pas par des actions périodiques, comme vous pouvez le constater, que ce soit au niveau du reboisement ou bien de l'assainissement, nous avons déjà réalisé beaucoup d'activités dans ce sens, mais la partie environnement, vous savez, aujourd'hui, les standards sont internationaux. Donc peut-être que c'est des concepts que vous connaissez déjà vu que vous êtes spécialiste dans le domaine. Chaque entreprise, chaque être humain émet une empreinte carbone, que ce soit les déchets qu'il produit.
Oui, nous allons arriver à ce niveau. Hein. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de la voix du parlementaire. L'émission, c'est Mon Environnement et notre invité de parcours, c'est M. Mohamed Lamine Keta. Il est directeur du pôle communication institutionnelle RSE à la direction communication et relations extérieures de Orange Guinée. Oui, Souleymane Diallo.
Oui, M. Keta, quelles sont les principales activités retenues dans le cadre de RSE pour l'environnement?
Voilà, okay. Pour ce qui concerne l'environnement, comme j'ai dit, il n'y a pas que les actions que nous menons en externe. Nous émettons une empreinte carbone, nous émettons des gaz à effet de serre de par notre activité. Mais qu'est-ce que nous mettons en place pour pouvoir contrôler les émissions de gaz à effet de serre? Voilà le plus important et ça se déploie sur toute l'année. Comme vous le savez, il y a un protocole qui a été mis en place au niveau international pour comptabiliser l'empreinte carbone au niveau des entreprises, qui se traduit par 3 scopes. Donc le premier scope concerne toutes les émissions directes liées à l'activité de l'entreprise. Ça peut être l'utilisation des véhicules, ça peut être les groupes électrogènes, la production d'énergie qui est faite sur nos sites pour alimenter nos différents bâtiments, ça peut être les véhicules qui sont utilisés par les salariés pour aller et venir au travail. Donc, toute la pollution qui est générée directement par l'activité de l'entreprise. Il y a un deuxième scope qui concerne l'énergie, d'accord, mais qui n'est pas forcément produite par nous, mais qui est produite par d'autres structures comme EDG par exemple, mais que nous achetons pour pouvoir alimenter nos bâtiments, parce que beaucoup de nos bâtiments sont alimentés aussi par l'énergie. Ça, c'est un deuxième poste de production. Et il y a un troisième qui n'est pas forcément dans la maîtrise d'Orange, qui concerne les fournisseurs. Donc tout ce qu'il y a comme les fournisseurs avec lesquels nous travaillons, le niveau d'émission de la part de ces fournisseurs en amont et en aval. Donc il y a 3 scopes. Sur les 2 premiers scopes, nous mettons en place des actions pour pouvoir réduire notre empreinte environnementale. Et ça, c'est sur toute l'année. Donc l'optimisation, par exemple, des infrastructures. On fait en sorte qu'on mutualise les voyages, par exemple. On ne fait pas des missions à l'emporte-pièce. On essaie de voir comment bien cadrer pour que des missions qui se font à l'intérieur du pays puissent être mutualisées par plusieurs départements. Ça permet d'économiser le carburant qui est mis dans les véhicules, ça permet de réduire l'empreinte carbone. Il y a aussi au niveau, toujours, je vous le disais, de ce premier scope, comment est-ce que nous faisons en sorte de faire des innovations qui nous permettent de réduire l'utilisation de l'empreinte carbone. Comment est-ce que nous faisons en sorte de faire des achats responsables, des achats qui prennent en compte le matériel recyclé, le matériel qui peut être réutilisé. Comment est-ce que nous traitons nos déchets en interne, les déchets électroniques, les déchets liés à l'activité. Je vous donne un exemple. Tout récemment, nous avons contractualisé avec une start-up locale la possibilité pour nous de leur mettre à disposition les déchets électroniques pour qu'ils puissent reconditionner et recycler ce matériel. Donc, ils ont fait plus d'une tonne de déchets électroniques qu'ils ont revalorisé à plus de 80%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'ils ont pu récupérer de ce matériel plus de 80% des composants qui vont être réutilisés après. Donc, c'est vous dire un peu que nous menons des actions au quotidien dans le cadre de notre activité, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau du personnel qui est sensibilisé tout le temps d'éteindre les bureaux en quittant les lumières, en quittant le bureau, d'éteindre les climatiseurs, d'allumer quand c'est nécessaire. Vraiment, c'est vraiment une pratique au quotidien pour pouvoir non seulement sensibiliser nos collègues pour réduire leur empreinte, mais aussi, dans le cadre de l'activité, réduire notre empreinte de façon vraiment drastique.
Voilà, des passages tout à l'heure, vous avez parlé de l'assainissement, vous avez parlé du reboisement. Dites-nous, quel est l'organigramme mis en place pour la mise en œuvre de ces deux programmes, assainissement et reboisement.
En fait, vous savez, dans chaque... En Guinée, par exemple, il y a des campagnes de reboisement qui sont organisées par l'État. Nous inscrivons dans cette dynamique justement pour accompagner des initiatives qui vont dans le sens du reboisement. On était il y a 2-3 jours à Kindia autour des berges de certains barrages pour participer à une action de reboisement avec d'autres entreprises. L'année dernière, on était dans la forêt de Dapompa, justement vous étiez avec nous. L'année d'avant, on était à Boké aussi pour faire du reboisement. Ou alors on reçoit des ONG ici qui viennent nous solliciter pour obtenir des subventions pour pouvoir faire du reboisement. Une entreprise...
Et pourquoi vous vous êtes intéressé à cette restauration du couvert végétal?
Oui, parce que, comme je vous l'ai dit, on vit dans un environnement où les parties prenantes expriment leurs préoccupations quant à la dégradation de l'environnement. Nous-mêmes, nous œuvrons, nous menons nos activités dans cet environnement. Il est de notre devoir de répondre aux besoins de ces parties prenantes et participer auprès d'elles à la restauration du couvert végétal. Ça fait partie de ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire au-delà des actions que nous-mêmes nous menons pour réduire notre empreinte carbone, si nous accompagnons des initiatives qui permettent de réduire et de protéger le couvert végétal et de réduire les gaz à effet de serre, nous faisons de la compensation. Donc, nous accompagnons en quelque sorte les initiatives qui permettront le bien-être de tous et toutes, y compris les entreprises.
Voilà. Et quelles sont les procédures menées, en commençant par le choix de la main-d'œuvre, passant par l'aménagement des sites et jusqu'à la mise à terre des plantes? Comment vous faites?
Ce que nous faisons, il y a des structures aujourd'hui, parce que Orange Guinée, je vous parlais tout à l'heure de notre impact sur notre environnement, notamment avec les fournisseurs. Notre objectif, c'est de faire grandir les ONG ou bien les structures qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc, il y a des entreprises qui sont là, des ONG qui sont là, qui évoluent dans le cadre de la gestion des déchets ou bien dans le cadre de la protection de l'environnement, que nous contactons. Donc, qui nous viennent avec des plans d'action, avec des études de terrain, pour voir, par exemple, voilà les zones qui sont les plus impactées, voilà le besoin dans ces zones. Nous sommes des experts dans le domaine. Nous vous sollicitons pour que vous nous accompagniez pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. Ils viennent avec tout l'argumentaire et nous, on analyse avec eux pour voir, en fonction des remontées qu'ils ont eu à faire, comment est-ce qu'on peut mettre les moyens nécessaires pour pouvoir exécuter. Donc eux, ils sont les spécialistes, ils vont nous dire quel type de plan utiliser, comment on peut procéder, quelles sont les périodes les plus appropriées pour procéder au plantage et comment est-ce qu'on peut suivre pour que cela se développe et que ça ne se dégrade pas en cours d'année.
Donc, et ça fait combien de temps maintenant que vous vous êtes intéressé au reboisement en République de Guinée?
Mais depuis que nous sommes là, nous accompagnons des initiatives liées au reboisement. Et Orange est là en Guinée depuis 2007. Chaque fois que nous avons été sollicités pour accompagner une structure faire du reboisement, on accompagne ces structures, que ce soit au niveau du gouvernement ou bien au niveau même de l'entreprise, la propre initiative de l'entreprise, ou même des initiatives combinées avec d'autres partenaires, comme vous avez pu le constater la semaine dernière.
Même si vous faites avec des partenaires, est-ce que vous avez pu comptabiliser le nombre de plants mis à terre par an ou bien par édition?
Oui, on
le
comptabilise. L'année dernière, on a mis 3000 plants.
Okay.
Cette année, 35 000. Voilà, c'est vraiment comptabilisé. Hein. Et vous avez vu, c'est monté, le nombre a augmenté. On est parti de 3000 plants l'année dernière, selon les sites qui nous ont été montrés.
Ouais.
Cette année, on est allé sur 50 hectares de reboisement, donc 35 000 plants. L'année prochaine, peut-être que ça va aller beaucoup plus, mais ça dépend vraiment de la surface, ça dépend de la zone à reboiser.
Voilà, monsieur Kita, qui parle de reboisement, parle du suivi, parce qu'il ne s'agit pas de mettre à terre les arbres. Mais il faut un suivi.
Nous avons recruté des ONG sur le terrain. Donc des ONG qui sont dans les zones où on a fait le reboisement. Garafiri, Banea, Donkea et autres. C'est des ONG qui sont dans ces zones, qui sont vraiment spécialisées. Avec ces ONG, on leur a fixé des objectifs en termes de croissance. Il ne suffit pas de planter, mais il faut planter et mettre en place un programme de suivi, venir sur le site, s'assurer que les plants qui ont échoué, par exemple, soient remplacés et qu'ils puissent croître d'ici 2 ans afin qu'on voit les résultats de manière concrète. Ça, c'est la première chose. Donc, les ONG, des moyens ont été mis à leur disposition, des moyens financiers et matériels pour pouvoir faire cette surveillance, mais aussi veiller à remplacer les plants qui ne vont pas réussir. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a eu une vaste campagne de sensibilisation qui a été menée auprès des populations. Parce que le problème, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est que ces populations vivent pour la plupart de la coupe du bois ou de la production de charbon. Et qui dit production de charbon dit abattage d'arbres pour pouvoir les brûler et obtenir le charbon. Donc, comment trouver une alternative pour ces populations afin qu'elles puissent, au lieu de détruire leur environnement, produire quelque chose qui peut leur générer des revenus. C'est pourquoi dans cette stratégie, on a planté beaucoup d'arbres fruitiers. Donc ces arbres, quand ils vont grandir, en plus de restaurer le couvert végétal, pourront leur servir pour les activités commerciales. Plutôt que de couper ces arbres, faire du charbon et attendre des années pour avoir d'autres arbres, la pluie se fait très rare, on était à l'intérieur, on s'est rendu compte qu'il pleut moins, les barrages sont complètement asséchés et cela a pour conséquence le manque d'énergie à Conakry. Donc si on ne veut pas atteindre ça, il faut qu'on puisse vraiment restaurer le couvert végétal.
Mais seulement avec ces plantes fruitières, ces populations pourront s'en sortir parce que c'est des années à suivre.
C'est une étape.
Une plante pour que qu'elle évolue.
Parfaitement.
Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres alternatives pour l'accompagnement de ces populations-là?
La première alternative, c'est déjà la sensibilisation. Merci. Leur faire comprendre. Vous savez, au-delà de faire de l'argent sur une activité ou des arbres fruitiers et autres, il faut vivre.
Oui.
Pour pouvoir faire tout ça. Si on ne vit pas, comment ça va se passer? L'immigration a fait déplacer en Afrique plus de 30 millions de personnes. 30 millions de personnes qui se sont déplacées parce que les zones dans lesquelles elles vivent ne sont plus propices à la vie. Donc, il faut déjà penser à survivre avant de pouvoir même faire du charbon. On leur fait comprendre ces réalités-là pour leur dire que si vous continuez à détruire votre environnement, mais vous allez vous retrouver face à cette situation dans quelques années. On n'aura plus personne qui pourra vivre ici parce qu'il fait chaud, il fait de plus en plus chaud, il y a de moins en moins d'eau, vous ne pouvez plus faire de l'agriculture, vous ne pouvez plus faire paître vos animaux. Vous êtes obligé de vous déplacer. Donc ça, on leur a fait comprendre cela. Dans un deuxième temps, on est en train d'étudier avec les partenaires comment valoriser l'utilisation de tous les foyers améliorés et tout, qui vont réduire drastiquement l'utilisation du charbon de bois pour faire la cuisine. Et troisièmement, Comme vous le savez, Orange est implanté non seulement Orange Digital Center, qui est un centre de formation qui est implanté à Conakry, est en train de se déployer à l'intérieur du pays pour favoriser la formation des jeunes, parce qu'il faut attaquer les plus jeunes, les former aux nouveaux métiers pour qu'ils aient des alternatives, pour pouvoir vraiment obtenir de l'argent autrement qu'en détruisant l'environnement, faire mettre en place des projets qui vont leur permettre non seulement de générer des sous, mais aussi de protéger leur environnement. Et c'est ce genre de projet que nous accompagnons. Là, on est en train d'incuber, on va incuber des 5 startups, dont une est en train de travailler à la production de l'énergie durable sans impact sur l'environnement. Donc, ça vous dit qu'il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui peuvent être accompagnées par des ressortissants même de ces localités pour pouvoir pérenniser les actions qui sont mises en place. Et j'avoue que vraiment aussi, l'État ne peut certes pas tout faire. Nous ne pouvons pas tout faire non plus. Il faut quand même que les partenaires s'impliquent pour pouvoir offrir à ces populations des alternatives qui leur permettront de continuer à survivre et ne pas avoir un impact sur l'environnement.
Oui, M. Le Mal.
Oui, M. Keita, le nom de votre entreprise figure dans le consortium de reboisement des têtes de source, donc, des barrages hydroélectriques. Pourquoi avez-vous décidé d'y participer et quelles contributions avez-vous apportées?
Nous avons décidé de participer parce que quand on nous a soumis ce projet, on s'est rendu compte que l'enjeu était très très important. L'enjeu, il est important dans la mesure où ça concerne la vie des millions de Guinéens. C'est des zones qui sont fortement dégradées, qui aujourd'hui sont en train de disparaître petit à petit. Tous les jours, quand on sort dans la rue, on rencontre des jeunes qui barricadent les routes pour dire qu'on n'a pas d'énergie. Ça a un impact vraiment grand sur la stabilité, sur la sérénité dans le pays, sur la vie tout simplement dans le pays. Donc il était important de se dire que c'est quelque chose à long terme, c'est quelque chose qui va avoir un impact durable si on s'y implique, et ça va aider les populations riveraines et aussi EDG qui est principalement concerné à avoir suffisamment d'eau pour produire du courant au bénéfice des populations. Donc c'est l'une des premières raisons qui nous a fait participer. La deuxième, comme j'ai dit, c'est un vaste programme de reboisement qui s'inscrit dans notre dynamique de préservation de l'environnement. Et comme quand c'est le cas, si c'est un projet pertinent, on n'a aucune raison de ne pas accompagner. Et pour répondre à l'autre question, c'est un accompagnement financier. Donc c'est des contributions financières qui ont été apportées par les différentes entreprises pour pouvoir réaliser ce projet.
Vous avez dit tout à l'heure justement qu'à l'intérieur du pays, l'environnement est menacé et il y a tellement de déforestation. Quelle solution ou quelle stratégie pour sauver vraiment Dame Nature?
Comme je l'ai dit, la première solution, c'est de trouver une alternative aux populations qui sont en train de détruire justement Dame Nature. Ces populations ont besoin de vivre, elles ont besoin de survivre en quelque sorte. Et pour le faire, si elles choisissent la facilité, se couper du bois, faire du charbon, on en vivra les conséquences, mais de façon très très dramatique. Je vous assure, j'ai fait tout le parcours à Kindia pendant 3-4 jours. Je n'ai pas eu une goutte de pluie. C'est seulement pendant le quatrième jour où la pluie a commencé à tomber. Pendant qu'on me disait qu'à Conakry, il pleuvait. Quand on va dans les régions, c'est comme si c'était une sélection pour la pluie. À Mamou, il pleut, mais à Cancan ou autre, on ne voit aucune goutte de pluie. Pour moi, c'est quelque chose qui est très alarmant. Mais c'est dû, quand on prend les zones de Cancan et autres, c'est dû principalement à l'ensablement du Niger, à la coupe du bois, à beaucoup de phénomènes qui sont liés à l'impact de l'homme sur la nature. Donc la solution pour moi, c'est de permettre à ces hommes et femmes qui ont besoin de survivre d'avoir une activité génératrice de revenus qui leur permette de travailler, de se nourrir sans avoir à détruire l'environnement. Aussi, c'est les formations. Aujourd'hui, l'une des astuces, c'est faire de la formation pour que, par exemple, même quand on fait de la saponification, quand on fait de l'agriculture, quand on fait une activité, que ce soit une activité durable. Aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques pour faire de l'agriculture durable sans avoir à trop détruire le sol. Il y a des nouvelles manières de faire même pour l'utilisation du bois, l'État peut décider pour dire, voilà, on consacre telle zone. Comme ça se fait dans tous les grands pays, le Canada vit de la coupe du bois. Comment est-ce qu'on peut aménager une zone pour que ce ne soit que dans cette zone que les gens puissent avoir le droit de couper le bois, mais pour tout le reste, interdire? Et ça m'amène déjà à la deuxième solution, c'est de mettre une réglementation vraiment stricte sur l'utilisation du bois de charbon, faire en sorte que cela soit réglementé.
Et appliqué, c'est tout. Parce que vous ne restez
déjà,
pas
non, c'est déjà réglementé.
Il y a les codes oui. de l'environnement, codes appliquer. Forestiers, mais qui ne sont pas appliqués.
Surtout appliqués, oui. parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Oui. La loi doit vraiment se faire, faire son petit bonhomme de chemin aussi pour se faire respecter. Quoi. Parce que si on ne le fait pas, si la loi n'est pas respectée, les gens font ça et tout. Ça va devenir normal pour eux. Dans quelques temps, ça va être comme si c'était normal pour eux de faire tout ça, alors que ce n'est pas normal. Donc, il faut trouver une activité pour eux, faire en sorte que la loi règne, le respect des réglementations des différents codes forestiers et autres qui existent, et la formation, la sensibilisation de cette couche vulnérable.
Vous êtes toujours à l'écoute de la voix du parlementaire. L'émission, c'est mon environnement et le thème débattu, c'est la responsabilité sociale des entreprises pour la protection de l'environnement. Et pour vous parler de ce thème, nous recevons pour vous Monsieur Mohamed Lamine Keta. Je vous rappelle qu'il est directeur de pôle communication institutionnelle et RSE, direction communication et relations extérieures à Orange Guinée. Monsieur Keta, vous avez parlé de l'assainissement. Parlez-nous de vos actions dans le domaine de l'assainissement.
Ok, dans le domaine de l'assainissement, par contre, nos actions sont plutôt récentes. Elles datent d'environ 2 ans maintenant. On a participé à une campagne d'assainissement en collaboration avec l'Agence nationale de salubrité publique, ANASP. On a commencé par une action l'année dernière sur le marché de Madina Avaria, oui. où nous avons pu collecter plus de 100 tonnes de déchets. Au-delà de cette action terrain qui a mobilisé à la fois les partenaires, mais aussi les travailleurs bénévoles d'Orange Guinée, nous avons au niveau d'Orange procédé à la diffusion des SMS d'information et de sensibilisation. Je pense que vous avez dû recevoir ces messages oui. en collaboration avec l'ANASP, justement, pour informer les gens, sensibiliser, informer sur les bonnes pratiques et autres. Sur nos propres réseaux sociaux et nos pages aussi, nous avons fait de la sensibilisation pour toucher le maximum de personnes. Cette année, on s'est attaqué à un plus gros morceau qui était la plage de la Jetée. Imaginez, l'année dernière, on a fait 100 tonnes de déchets, mais cette année, on a fait plus de 1000 tonnes de déchets collectés. Les camions ont fait plus de 60 voyages entre le site de collecte et le lieu d'enfouissement. Plus de 320 bénévoles ont été mobilisés sur cette action. Même si aujourd'hui, quand on passe au niveau de la plage, on se rend compte que les déchets sont venus parce que tout simplement, les personnes qui sont en amont continue à déverser les déchets à cause de la pluie et ces déchets se retrouvent toujours au bord de la plage. Donc voilà, nous continuons à sensibiliser aussi à travers les messages, que ce soit sur nos pages ou bien les SMS. Voilà comment est-ce que nous sommes sur la partie assainissement. Mais au-delà de ça, en interne, nous avons des projets que nous accompagnons, des projets de jeunes qui ont mis en place des poubelles intelligentes, des poubelles de tri. Pour favoriser le tri des déchets,
tri des déchets solides et liquides,
les papiers, tout ce qui est recyclable, vraiment ils ont mis en place, si vous voyez, ça intègre de l'intelligence artificielle. Oui. Aujourd'hui, c'est le type de poubelle que ces jeunes ont eu à proposer, par exemple, est muni d'une caméra qui peut déceler quel est le type de déchet et ouvrir le compartiment adéquat. Donc, si vous présentez un papier, il ouvre le compartiment pour le papier. Si vous présentez un verre, il ouvre le compartiment pour les verres ou les boîtes. Si vous présentez
c'est
un
Orange
déchet...
qui a doté ces caméras ou bien ce sont
Non, ce sont ces jeunes qui ont travaillé sur des projets, mais accompagnés par Orange Guinée. C'est nous qui les avons soutenus, on les a formés surtout. On a un Fab Lab au niveau d'Orange Digital Center, donc c'est un laboratoire de prototypage où ils ont pu mettre en place ces prototypes. Donc nous accompagnons aussi ce genre d'initiative, nous encourageons l'innovation au niveau de la gestion des déchets et nous accompagnons des initiatives qui vont dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité.
Oui, le secteur de l'assainissement est un domaine très vaste puisqu'il y a la collecte, le ramassage, le transfert, la valorisation plutôt, ce qui veut dire qu'il faut des professionnels pour faire bien. Quelles dispositions avez-vous prises pour booster les compétences des acteurs évoluant dans ce secteur, M. Keta?
Voilà, l'année dernière, par exemple, nous avons formé plus de 200 jeunes à Conakry et à l'intérieur du pays, sous la coordination de la Fédération guinéenne des gestionnaires de déchets. Donc ces jeunes ont été formés sur les nouvelles techniques de gestion des déchets, sur les enjeux environnementaux et aussi sur ce qu'on a appelé l'entrepreneuriat, le terme m'échappe, mais c'était lié vraiment à l'éco-entrepreneuriat. Donc comment est-ce qu'on peut valoriser ces déchets pour pouvoir faire de l'entrepreneuriat? Ces jeunes ont été formés à cela et c'est dans ce sens que nous nous inscrivons pour pouvoir développer les compétences des jeunes pour le traitement des déchets, pour le recyclage. Au sein de l'Orange Digital Center, comme je vous l'ai dit, on a accompagné le projet de poubelle intelligente, mais on encourage aussi la création des sortes de séchoirs solaires, donc pour sécher tout ce qui est fruits et autres. Vous savez, on produit beaucoup de fruits quelquefois, mais on ne sait pas comment les utiliser. Donc on a travaillé aussi à de telles innovations pour pouvoir sécher les fruits et les utiliser autrement. Voilà. Donc dans ce sens, c'est vraiment ce type d'initiative que nous avons, la formation, l'accompagnement des structures et l'innovation.
Voilà, vous avez dans vos programmes ciblés des sites et Assaini. Quels sont vos constats par rapport à la gestion des déchets en Guinée, d'une manière globale?
D'une manière globale, je constate que en Guinée, on n'a pas encore compris que les déchets, ce n'est pas gratuit. Dans tous les pays au monde, c'est-à-dire pour pouvoir bénéficier d'un service de ramassage de déchets chez soi, il faut payer de l'argent. Il y a des taxes qui sont payées. Chaque Guinéen doit savoir que c'est un service qui est rendu. Quand on voit les éboueurs dans la rue tous les jours en train de nettoyer, les camions en train de transporter les déchets, c'est de l'argent. Ça ne peut pas se financer tout seul. C'est un service qui est rendu. Vous produisez des déchets, vous voulez qu'on les élimine, vous devez payer pour cela le minimum. Donc c'est quoi ? Payez les PME de proximité. Si une PME vient dans votre quartier, abonnez-vous à cette PME afin que les déchets qui sont produits par vous-même, votre action, soient traités comme il faut. Pour moi, c'est la grosse problématique. C'est le manque d'informations que les populations ont sur le rôle qu'ils doivent jouer dans le cadre de la, du traitement des déchets que eux-mêmes ils produisent au quotidien. C'est eux-mêmes qui produisent ces déchets. Il ne faut pas les jeter dans la rue parce que même dans la religion, il n'est pas recommandé de fatiguer son voisin. Mais si vous prenez vos déchets, vous les déversez chez vous, ceux-ci vont se retrouver chez des voisins en bas qui sont victimes d'inondations, qui sont victimes de maladies et autres liées à ces déchets. Je pense que ce n'est pas bien de la part...
Donc il faut appliquer le principe polia payer.
Il faut, celui qui pollue, il doit payer. En fait, c'est tout à fait naturel, quoi. Si vous émettez des déchets, vous devez payer pour que cela soit traité. Parce que les personnes là ne sont pas... Vous savez pourquoi est-ce que nos services publics ne fonctionnent pas trop? C'est parce que tout simplement, ils ne gagnent pas forcément l'argent qu'ils ont. Les gens ne s'abonnent pas à l'électricité, mais ils trouvent des moyens détournés pour pouvoir prendre de l'électricité à la maison. Ils n'ont pas de l'eau, ils trouvent des moyens détournés pour prendre de l'eau, ils ne payent pas. Les déchets aussi, c'est pareil. Ils produisent des déchets, mais la nuit, c'est des enfants que vous voyez, des enfants de 10 ans, de 9 ans, à qui on donne les brouettes, à qui on donne les choses pour dire « allez jeter ça là-bas ». Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'assument pas jusqu'à ce niveau. Pour moi, il y a des PME qui sont là, les tarifs sont abordables, 50 000 francs ou 25 000 francs par mois. Chacun peut vraiment se le permettre pour permettre à ces personnes de bénéficier d'un salaire, de bénéficier des moyens beaucoup plus évolués pour transporter ces déchets et faire en sorte que la ville soit propre.
Mais M. Keta, comme Orange B toucher le peuple en un clin d'œil, il suffit juste d'envoyer un message à travers les téléphones, juste tout le monde reçoit en même temps. Orange ne peut pas initier un tel projet de sensibilisation
c'est fait, à la base,
envoie des SMS dans les téléphones pour que chacun puisse vraiment...
Oui, regardez, ça c'est des messages qu'on reçoit. Okay. Quand vous regardez, chaque mois, il y a au moins un message qui est envoyé de sensibilisation. C'est des choses qui sont faites, ça, c'est pour vous dire. Regardez, et ça date de quand? C'est depuis en mai 2023, on a commencé à accompagner cette initiative de sensibilisation, on le fait. Pour pouvoir sensibiliser, on ne se limite pas aux messages SMS, mais même sur nos pages, nous faisons des petites clips vidéo pour montrer aux gens la nécessité d'avoir un environnement propre. Voilà.
Les difficultés n'en finissent pas, M. Keta. Énumérez quelques-unes rencontrées dans vos activités d'assainissement.
Les principales difficultés que nous rencontrons, c'est la disponibilité, par exemple, du matériel, les engins pour pouvoir effectuer le ramassage. On s'est rendu compte que la plupart des engins, par exemple, qu'on est obligé de louer parce que nous, on ne les a pas, ce n'est pas notre domaine d'expertise, des fois, ne sont pas en bon état, ils sont un peu défectueux, et c'est difficile d'en avoir. Et même quand vous les trouvez, vous réussissez à faire tout ça, vous allez vous nettoyer un endroit aujourd'hui, le lendemain, vous venez trouver que les gens sont venus jeter. Donc, le manque de civisme est un gros problème en ce qui nous concerne. Parce que quand on prend l'exemple de Madina, par exemple, Madina, pendant plus de 2 ans, l'espace qui a été assaini récemment n'était pas accessible. Les voitures ne pouvaient pas passer. Quand on est passé là-bas ce jour pour faire le nettoyage, le lendemain, les véhicules ont commencé à circuler dans cette zone, les gens ont commencé à se mouvoir et tout. Alors que 2 jours auparavant, tout le monde était là en train de regarder. Donc ça, c'est vraiment une des difficultés que nous rencontrons, le comportement des...
L'incivisme
qui est là, la difficulté d'obtenir du matériel. Sinon, en termes de collaboration, franchement, les autorités sont très, très collaboratives, que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau de l'Agence nationale de salubrité ou du ministère de l'Environnement. Tout est mis en œuvre pour nous faciliter la tâche, pour pouvoir exécuter nos programmes. Mais bon, après, il faut quand même, on continue à sensibiliser les populations, on continue à faire en sorte que chacun s'inscrive dans cette dynamique.
Vous êtes toujours dans l'émission Mon Environnement. Monsieur Keita, dans nos recherches, nous avons trouvé un slogan, Agir pour l'environnement, quelque part sur vos pages, et avec pour objectif devenir net zéro carbone d'ici 2040. Quelles sont les stratégies mises en place pour atteindre cet objectif? Parce que vous avez reconnu que vous produisez de carbone.
Mais bien sûr. C'est-à-dire que même si vous, on vous prend individuellement, vous avez un bilan carbone qu'on peut évaluer pour dire que dans une année, voilà votre bilan carbone. Ça, c'est évident. On produit tous du CO2. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que la nature puisse absorber ce CO2? C'est en accompagnant des initiatives de reboisement, par exemple. Donc, si nous accompagnons des initiatives de reboisement et que ces arbres-là poussent de manière efficace, dans quelques années, ces arbres vont être des puits de carbone pour pouvoir absorber le taux de CO2 qui est rejeté par les engins roulants, par les machines et autres. Ça, c'est une des premières choses. Et ce que vous avez dit, ce n'est pas un slogan, c'est un objectif. Être net zéro carbone en 2040, c'est un objectif.
Agir pour l'environnement.
Oui, agir pour l'environnement, oui, bien sûr. Le net zéro carbone, c'est un objectif du groupe Orange. Okay. Comment faire en sorte que nous soyons dans nos émissions? Quand on dit net zéro carbone, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas produire de carbone, mais ça veut dire que nous allons absorber, c'est-à-dire l'équivalent de ce que nous allons produire. C'est ça l'objectif que chaque être humain doit avoir. Parce que sinon, d'ici 100 ans, on aura un taux de 1% d'augmentation de l'effet de serre et la Terre sera encore plus chaude et les conséquences, on voit des cyclones. Dans certains pays, on voit la neige, dans d'autres pays, on voit, il y a un dérèglement climatique qui est là. Donc, on est obligé de mettre en place des actions pour pouvoir soutenir tout ça. Donc, nous, on s'est inscrit dans cette dynamique pour que d'ici 2040, on puisse réduire notre empreinte carbone. Pour 2023, nous avons émis, vous savez, comme je vous ai cité, les scopes là au départ, le scope 1 oui. qui est lié à nos émissions directes dans le cadre de nos activités.
On a émis la quantité.
Oui, l'équivalent de 19 000 tonnes de CO2 équivalent. Oui. C'est comme ça que c'est calculé. Il faut voir l'équivalent. Quand on dit 19 000 tonnes de CO2 équivalent, si vous allez faire les recherches, vous allez voir en fait que ce n'est pas aussi énorme que vous le dites parce que c'est très, très maîtrisé en fait. C'est l'équivalence en tonnes de CO2 carbone. C'est pas en tonnes kilogrammes de carbone. C'est la nuance, elle est un peu fine quoi. Donc essayez de vous renseigner sur ça. Il faut savoir que nous Orange, on produit plus de 16 gigawatts de notre électricité à partir du solaire. Ça représente plus de 28% de notre consommation en énergie. Donc à part donc les énergies alternatives que nous avons, qui sont les groupes électrogènes ou le courant de EDG, nous-mêmes nous produisons l'équivalent de 24% de notre énergie. Donc ça veut dire que nous sommes dans cette optique de développer sur nos différents sites l'utilisation de l'énergie solaire afin de réduire davantage notre empreinte carbone. D'ici quelques années, tous nos sites seront tous sur du solaire. Aujourd'hui, vous savez, on est à quel taux? On a plus de 2500 sites aujourd'hui déployé en Guinée, on a un taux de solarisation de 67%. Donc 67% de ces sites sont tous solaires. tous les sites là où il y a une antenne Orange. On est en train d'aller crescendo pour pouvoir atteindre le maximum. Certes, on aura des backups, mais on va réduire au maximum l'utilisation des groupes électrogènes. Donc, les infrastructures, les bâtiments, même le siège que nous sommes en train de construire, est construit selon les normes qui nous permettront de réduire, mais de façon très drastique, de recycler l'eau que nous utilisons, de la réutiliser dans une certaine mesure. Tous les déchets que nous produisons, je vous ai parlé de notre partenariat avec EDZR, tous les déchets électroniques que nous produisons, nous essayons de les reconditionner ou de les recycler. On a un taux de recyclage, je vous ai dit, de plus de 80% sur le matériel qu'on a eu à donner. Et là encore, on s'apprête à donner encore une autre quantité de matériel. Je vais vous montrer un peu pour que vous puissiez voir. Mais c'est vraiment... Voilà, ça, on s'apprête à mettre à disposition tous ces déchets électroniques encore à la structure pour qu'elle puisse les recycler et tirer le meilleur de tout ce matériel afin de pouvoir revaloriser tout ça. Et pour le faire, nous avons recruté des jeunes qui ont fait des formations à ODC et qui vont participer à ces actions de recyclage. Donc on crée des emplois et on permet de vraiment revaloriser les déchets qui sont produits par notre activité.
Voilà, M. Keta, vous avez parlé de vos installations partout, sur toute l'étendue du territoire national. Oui. On rencontre souvent ces installations sur des toits de maisons, à proximité des habitations. Qu'est-ce que vous faites pour la protection de l'environnement, pour la protection de la vie de ces populations riveraines de vos installations?
Aujourd'hui, ces sites sont construits avec toutes les normes de sécurité requises. Toutes les normes de sécurité sont déployées pour permettre de préserver au maximum le bien-être des personnes riveraines à ces différents sites. Ce sont des études qui sont menées auparavant. Avant d'installer un site, il faut qu'on ait l'accord même du propriétaire. Si ce n'est pas un bâtiment qui nous appartient, il faut qu'on ait l'accord du propriétaire et toutes les dispositions sont prises pour pouvoir sécuriser les personnes sur ces différents environnements.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Mon Environnement. Monsieur Keta, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous évoluez dans le domaine de l'environnement. Quelles sont vos relations avec les autorités, avec d'autres partenaires évoluant dans le même secteur?
Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous avons une relation plutôt bonne. Déjà, l'activité que nous avons réalisée la semaine dernière en est une illustration parfaite. Le fait que deux, trois entreprises se réunissent, se donnent la main pour réaliser une action d'envergure, mobiliser plus de 100 salariés de toutes ces entreprises combinées pour aller faire cette action de reboisement, c'est démontrer un peu l'impact et la bonne collaboration qu'il y a entre nous et ces entreprises. Au-delà de ça, si nous avons la chance d'exercer notre activité en Guinée, c'est parce qu'il y a des autorités qui sont là, qui ont donné les moyens, qui ont donné l'autorisation de pouvoir de nous permettre d'exercer notre métier et d'accompagner les Guinéens. Donc ce sont des bonnes relations qu'il y a aussi avec les autorités. On respecte notre cahier de charge, on respecte toutes les obligations légales et réglementaires qui nous sont assignées et on paye tous les droits qui sont demandés en termes de fiscalité. Donc je pense que c'est plutôt des relations très bonnes qu'il y a entre Orange et les autorités du pays.
Vos mots de la fin.
Merci de nous avoir donné l'opportunité de partager ce que nous faisons dans le cadre de la préservation de l'environnement. Et sachez que ce n'est pas des actions d'un jour, ce sont des actions qui sont au quotidien. Et nous allons continuer à les déployer, à mettre les moyens nécessaires pour que tous les Guinéens puissent vivre dans un environnement sain et agréable.
Ah oui, Suleymane.
Merci bien d'avoir répondu à notre invitation, M. Keta.
Aimables auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission Mon Environnement et je vous rappelle que nous avons reçu pour vous cet après-midi M. Mohamed Lamine Keta. Il est directeur du pôle communication institutionnelle et RSE à la direction communication relations extérieures de Orange Guinée. À la technique, Harry Mathias Collier et Marie-Madeleine Guilavogui. Au micro pour la présentation, Sano Sekou Cheikh et Souleymane Diallo, merci de votre aimable attention. À bientôt.
Mon Environnement, c'est votre émission dédiée à la protection de Dame Nature. Mon Environnement reçoit tous les mercredis dès 15h des acteurs qui œuvrent à la protection de la faune et de la flore.